bang bang.
Sono solo canzonette, ce ne sont que des chansonnettes.
Une émission de l'INIS sur l'histoire de la chanson italienne, présentée par
Jean Guichard,
Françoise Gibaja,
Angelo Sollima.
Bonjour Laurent, bonjour Françoise, bonjour Angelo.
Bonjour.
Nous parlons aujourd'hui d'Adriano Celentano. Dans la série sur les interprètes, il est plus qu'un interprète, d'ailleurs on le verra, mais essentiellement quand même un interprète de la chanson italienne. Alors si on regarde sur, par exemple, Wikipédia, on voit à propos d'Adriano Celentano qu'il était cantautore, donc auteur, compositeur, interprète, ballerino, danseur, showman, acteur, metteur en scène, producteur discographique et monteur. C'est significatif.
Monteur.
En pellicule.
En pellicule.
De cinéma. Ouais, oui. C'est significatif parce que c'est vrai qu'il a travaillé dans tous ces domaines. Il a été acteur, chanteur. Il a conquis le public comme danseur, souvent. Et c'est significatif en même temps de un peu du caractère superficiel de son activité pour moi, mais on en discutera, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Il a fait un peu de tout, il a fait de tout ce qui pouvait lui rapporter du succès et de l'argent d'ailleurs, parce qu'il est riche maintenant.
Et de la notoriété.
Mais tout ce qu'il a écrit, tout ce qu'il a chanté, c'est justement ce qui pouvait lui assurer du succès et qui n'était pas vraiment le plus profond des cantautori.
D'une sincérité.
La sincérité, on peut pas en discuter parce que il y a que lui qui peut en juger de l'extérieur.
Vous allez vous mettre toute l'Italie sous le dos.
On peut pas.
Soir, hein.
Mais c'est d'une certaine façon un grand bonhomme et qui a eu un succès énorme avec Mina. C'est le chanteur qui a vendu
50 millions.
Le plus de disques.
100 millions, je crois.
150 millions.
150.
Mina.
Non,
et lui aussi.
Ah bon.
Il est autour du même chiffre.
Ah oui, je croyais 100 millions
dans
le monde.
C'est vrai que c'est...
Ils ont marqué leur époque, tous les deux, quand même. Hein.
Ah oui.
Ah oui.
Et puis, Celentano, comme Mina, d'ailleurs, on l'avait vu, sont encore présents sur la scène, malgré son âge qui commence à être intéressant. Il est né en 1938. Il est né le 6 janvier 1938. Donc, il a calculé 76 ans, si je ne me trompe pas.
Oui, c'est ça.
Hein, si...
Oui, c'est ça.
C'est ça, 76 ans.
Mais il est toujours en
scène. Mais il est toujours en scène et il semble en grande forme. Et puis, on l'avait surnommé pour son activité, sa présence sur scène, il molleggiato.
Oui, parce qu'il dansait, c'était un ressort.
Voilà, la molle, là, c'est le ressort.
La molleggiato, c'est le ressort.
C'est l'homme à ressort.
Ah, d'accord.
Voilà, alors on va parler un peu de sa biographie, qui n'est pas très compliquée. Il est né à Milan, dans le quartier de Greco, et dans une rue qui va devenir célèbre à travers la chanson, c'est la Via Gluck. Il est né au numéro 14. Ses parents étaient de Foggia, donc dans les Pouilles.
Il vient de la Pouille.
Et ils étaient venus à Milan. Donc lui est né à Milan, mais ses parents étaient venus à Milan pour...
travailler.
Pour travailler, pour des raisons de travail. Alors, à Milan, ben, comme tous les enfants, il est allé à l'école, mais il s'est arrêté
vite.
À la fin de l'école primaire. à la cinquième classe élémentaire.
Ça correspond au niveau primaire.
C'est le CM2.
Au niveau CM2.
Ah oui, donc c'est... niveau primaire.
Oui,
certificat d'études alors.
Je sais pas si on passait.
Non, enfin.
À l'époque,
si il y avait la licence.
À l'époque, oui.
Oui, il y avait encore la licence élémentaire.
Chez nous, ça correspond au certificat d'études, oui.
Et puis, il s'est arrêté parce que l'école l'intéressait absolument pas. Il n'a pas d'ailleurs une très grande culture et il s'est livré à des petits métiers. Il a travaillé dans des quantités de petits métiers, mais il y en a un qui l'a beaucoup passionné. C'est
l'horlogerie.
Voilà. Et il s'est toujours intéressé aux horloges, aux montres, etc. Et puis en même temps qu'il fait ses petits métiers, il s'initie à la musique. Et puis un jour, il entend un morceau de rock américain qui est célèbre, la chanson de Bill Haley, Rock Around the Clock. Et il est fasciné, parce qu'il est encore jeune, et à cette époque, en Italie, on est encore à la chanson traditionnelle telle qu'elle est, enfin la chanson telle qu'elle est transmise par le festival de San Remo à partir de 1951, qui est la plupart du temps, qui est la chanson la plus médiocre qu'on puisse faire en Italie, mais celle qui a aussi le plus de succès, malgré les efforts à San Remo d'un homme comme Amilcare Rambaldi, qui aurait voulu de faire...
Modugno. Avec Modugno qui commençait.
Oui, mais Modugno, c'est en 58. Modugno gagne en 58.
Ah oui.
Il vient en 56.
Commence à 54.
Oui, mais enfin, en 54, comment il n'est pas apprécié du tout. Et puis, il n'est pas encore Modugno, vraiment. Mais...
Et il y a Mina en même temps, qui revient en même temps.
Mais Mina n'est pratiquement jamais allée à San Remo. Elle y est allée...
Deux fois.
Et puis, elle a dit, c'est fini, moi, je ne vais plus dans ce
machin.
Je ne veux plus vous voir, je ne vais plus dans ce machin, qui d'ailleurs n'aimait pas Mina, parce qu'elle n'était pas assez conventionnelle. Donc, il est foudroyé par le rock américain, et il décide de se consacrer à faire des covers, à chanter en italien
des
chansons
américaines.
Voilà, oui. Des séries américaines. Il crée un groupe, les Rock Boys. Oui.
Non, je disais que ils avaient fait un petit groupe avant. C'était gli Allegri Minestrelli.
Oui.
Avec Tony Renis. Et faisait des imitations de Jerry Lewis et Dean Martin.
Oui, ils ont fait plusieurs fois des imitations des chansons de cabaret, quoi.
Oui.
Et des imitations de Jerry Lewis, c'est vrai. Mais le premier groupe qui compte vraiment, c'est les Rock Boys avec quatre amis, les trois frères Ratti, qui étaient à la batterie, à la basse et à la guitare. Et puis Bruno, qui vont le quitter d'ailleurs bientôt. Et puis Ico Cerutti, qui était un Turinois transféré à Milan. Et il lance ce groupe à partir de 1956 dans un local de Milan, l'Ancona. Hein. Il passera ensuite dans un local plus important, très connu. C'était dans le club Santa Tecla.
Santa Tecla, oui.
À Santa Tecla, qui va être dans l'histoire de la musique milanaise, un groupe un lieu très important qui va lancer des quantités.
C'est là qu'il a rencontré Bruno Dossena.
Oui, voilà, il y rencontre entre autres Bruno Dossena. Et puis, il va passer au théâtre aussi, Théâtre Smeraldo, à la fin de 1956. Toujours en faisant du rock et en faisant des covers, des copies de chansons américaines. Bon, il n'est pas encore très, très connu jusqu'au moment où il chante. Il a dans son groupe un certain Torquato qu'on surnomme Il Molleggiato, qu'on va connaître sous le nom d'un danseur, qu'on va connaître sous le nom de Jacques Lacayenne, et plus tard. Et un jour, dans son groupe, le Molleggiato est malade, il ne peut pas venir. Alors c'est Celentano qui le remplace et qui va se mettre à danser de façon complètement dégingandée et
ça marche.
Non traditionnelle.
Il a pris sa place.
Il a pris sa place. Et à partir de ce moment-là, c'est Celentano qu'on va appeler le Molleggiato, l'homme au ressort. Et puis Bruno Dossena, qui va bientôt finir sa vie d'ailleurs, le rencontre et organise un festival de rock and roll avec toute une série de groupes, de petits groupes à ce moment-là.
Danseurs.
De danseurs. C'est un groupe de rock and roll, mais pas de chansons.
C'est pas un concert rock.
C'est pas un concert rock.
C'est du rock and roll
dansé.
Dansé. Et du rock and roll acrobatique peut-être déjà.
Oui, voilà. Acrobatique. Hein, il avait aussi dans les groupes, le groupe français. National français, acrobatique.
Oui. Ah oui, c'était international.
Oui,
c'était international.
Et la France était représentée.
Oui.
Et arrivé deuxième tournoi.
Comment?
Dans ce concours, la France, elle est arrivée après Bruno Dossena, que c'était le champion du monde.
Oui. De danse rock, quoi.
Oui.
Et c'était nouveau à l'époque. Il faut bien se rendre compte que c'était une révolution, et dans la musique, et dans la chanson, et dans la danse, surtout. Alors, le festival, le Trofeo Oransoda, est gagné donc par le Dossena Rock Ballet. Et c'est à ce moment-là que Celentano commence à être connu. Mais il va répandre des quantités de bruit à partir de ce festival, des nouvelles complètement fausses, comme par exemple que Tenco aurait participé à son groupe.
Giorgio Gaber,
qui ne viendra que beaucoup plus tard.
Quand un article sur les journaux, il dit que Giorgio Gaber, oui, il a participé, Enzo Iannacci aussi, mais sous un autre nom, pas sur le même groupe. Ils sont rentrés sur le groupe après.
Et puis surtout, il a laissé entendre qu'il avait gagné le festival de 1957, alors que c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Et il faut attendre un petit peu plus tard. Ses premiers CD qui vont le lancer.
C'est des 45 tours à l'époque.
C'est 45 tours, voilà. C'est encore le moment des 45 tours. Il y a une chanson qui va être publiée en 59 et qui va le lancer. C'est Ciao ti dirò. Mm-hmm. Et puis une autre chanson, Il tuo bacio è come un rock, qu'on va écouter. Alors, le texte n'est pas bien compliqué. Ton baiser est comme un rock qui te mord avec son swing. Il est assez facile au knockout qui te fulmine, qui te foudroie sur le ring. Alors, vous voyez, on fait rimer ring et swing, rock et knockout, knock. Il fait l'effet d'un choc, et c'est pourquoi je chante ceci. Oh, 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 ton baiser est comme un rock. Tes baisers ne sont pas de simples baisers. Non seulement il en faut au moins trois, et c'est pour ceci, ma petite, que tu me plais, et je te dis baciami così, embrasse-moi comme ça.
Ouais, mais c'était nouveau.
Ton baiser est comme un rock.
Oui.
J'arrête là.
C'est des rythmes nouveaux.
Aujourd'hui, on se met à rire de cette petite chansonnette.
Mais ça plaisait aux jeunes, c'était la jeunesse que ça touchait.
À ce moment-là, ça touchait la jeunesse.
Et, oui.
Et puis, ce qui va intéresser les gens, et les producteurs surtout, c'est à la fois la voix de Celentano, et puis le rythme rock, qui est la nouveauté de l'époque.
Oui.
On est en 1959. On va écouter Ton baiser est comme un rock. Un rock R-O-C-K, hein.
Semplici pari, uno solo.
Voilà, ton baiser est comme un rock Eroseka. Et puis, cette chanson est dans un disque qui est un de ses premiers disques, qui est Il Ribelle. Et c'est le titre aussi d'une chanson qui est un peu plus intéressante parce qu'elle va donner un aspect de Celentano. Il s'est toujours présenté comme un contestataire. Alors, quelquefois, il a été à la marge de la contestation. On verra quand il fait des chansons écologiques qui critiquent un certain type de construction, qui critiquent la chasse, qui critiquent la drogue aussi.
Il a toujours critiqué.
Il a toujours critiqué, je dirais, à droite et à gauche. C'est en ce sens qu'il est un peu, il est très représentatif à la fois de classe populaire et puis d'une petite et moyenne bourgeoisie, catholique entre autres bientôt, qui aime bien cette forme d'anarchisme qui n'engage pas.
Sa critique, il fait sauter les gens, il critique et en même temps il les fait danser.
Alors Il Ribelle et dit: je suis un rebelle, je n'aime pas ce monde qui ne veut pas de fantaisie. Je suis rebelle dans la façon de m'habiller, dans ma façon de penser et d'aimer la bimba mia, d'aimer ma petite
amie.
Oui. Je trouve un peu de bonheur en dansant le rock. Et c'est ça, le rock, c'est sa forme de rébellion contre ce monde, effectivement, ce monde de l'époque, qui est un monde de censure, un monde étriqué, un monde provincial aussi. Et c'est vrai qu'il se rebelle contre ceci. Je suis rebelle, mais je ne me soucie pas d'argent. Je vis comme un grand seigneur. Je suis rebelle, mais sincère. Et il n'est pas vrai que je n'ai pas un peu de cœur. Ma guitare me fait pleurer quand je danse le rock. Vous voyez, c'est toujours le rock. J'aime la vitesse. Je suis un frénétique du jazz. Je voudrais danser parce que je sens le rock. Je suis rebelle, je n'aime pas ce monde, etc. Et il répète. Voilà sa forme de rébellion. Et c'est danser du rock. Parce que c'est la forme...
Lui, c'était une contestation.
C'était la contestation d'une chanson italienne qui, effectivement, sombrait dans la banalité, dans la répétition, dans la aussi...
Monotonie, quoi.
Tout à fait. Et Don San Remo va de plus en plus devenir le symbole. On écoute Il Ribelle.
Io son ribelle, non mi curo del denaro, vivo come un gran signore. Io son ribelle, ma sincero non è vero che non abbia un po' di cuore. La mia chitarra cantere mi fa ballando rock. Mi piace la velocità, sono un frenetico del jazz. Vorrei ballar perché se sono io son ribelle, non mi piace questo mondo che non vuole la via. Io sono ribelle nel vestire, nel pensare, nel nome della bimba mia. Ma con un uomo di felicità, ballando rock. Sono un frenetico del jazz.
vorrei ballare perché se no voglio sorridere, non mi piace questo mondo che non vuole la via. Io sorridere nel pensare, nel pensare nella mamma viva mia, ma con un poco di felicità ballando rock, ballando rock, ballando rock.
Oui, Françoise, vous disiez
Ben, ça correspondait bien à ce qu'attendaient les jeunes à cette époque-là. Hein.
Tout à fait.
C'est le conflit des générations, se démarquer de la génération à papa, quoi. Hein.
Et c'est le moment où on commence à parler des jeunes, d'ailleurs.
Et voilà.
Les jeunes apparaissent tout comme... c'est le moment où ils vont acheter ces petits appareils, les manches-disques, là. Qui coûtait pas cher, on rentrait un 45 tours.
Voilà.
Et qu'est-ce qu'on écoutait? On n'avait plus envie d'écouter Neil Lapizzi ou les chanteurs.
Ou Solémi. Ou...
oui, c'était des momies. C'était devenu des momies, cela. Donc.
C'était devenu. Oui, pas Neil Lapizzi, d'ailleurs, qui est une grande chanteuse.
Ouais.
Mais on cherchait autre chose.
Voilà.
On rentrait dans un monde nouveau. Alors, il y a d'une part, il y a les politiques qui font de la chanson politique pendant les années 60-70, réussie ou pas, mais il y a aussi ce fait de changement qui est apporté par l'introduction du rock, par l'introduction d'une autre attitude sur scène, parce que Neil Lapizzi, si elle chantait encore avec... une main, la main droite en avant et,
sous le cœur.
Et la main gauche sur le cœur, oui. Et vêtue d'une longue robe noire, et ça va changer avec...
Il avait le cœur plutôt loin.
La mini, non, elle avait le cœur à gauche. ça va changer avec la mini-jupe de Mina, quoi, qui va pour ça faire scandale dans les institutions officielles de la musique. Alors, de ce disque, Il Ribelle, et dont on vient d'écouter deux chansons, il vend 300 000 exemplaires en quelques semaines. C'est prodigieux, quoi. En même temps, c'est la fin de sa collaboration avec Gaber, qui va, à ce moment-là, partir de son côté avec Iannacci, qui va le quitter, pour former leur duo de jazz, qui va être si célèbre, et qui sera une forme autre de contestation, parce que Gaber va bientôt faire, on en avait parlé, de la chanson, du théâtre chanson, et là, on aura une contestation de fond, une analyse et une critique sociale et politique de la société contemporaine qui sera à un autre niveau que celui de Celentano, bien sûr. Et puis, il doit s'arrêter, Celentano, pendant quelques temps, parce qu'il a un accident de voiture, tout simplement. Il allait trop vite. Et il est avec sa fiancée de l'époque, Milena Cantù. Ouais, qui a été une...
Et Milena Cantù appartenait à son groupe.
Oui.
Et chanter et devenu sa copine, mais il avait déjà fait à l'époque son club,
le clan Celentano,
et la ragazza del clan c'était Milena Cantù.
Oui, ça a été le grand début de l'autonomie de Celentano, ouais, par rapport au producteur.
On est en 1962, là, de 62.
Oui, on est déjà un peu plus tard. Il commence aussi sa collaboration avec Mina, qui est une autre contestataire, avec qui il s'entend bien, et il grave avec elle un 45 tours, « Vorrei sapere perché », je voudrais savoir pourquoi, qu'il a écrit pour elle, avec le texte des mêmes auteurs que Il tuo bacio
est
come un rock. Et puis voilà une autre chanson qu'on va écouter de 59, qui figure dans un de ses films, son premier film, parce que Celentano va jouer dans, je sais pas, une quarantaine de films à peu près.
Ouais.
Il va être aussi célèbre comme acteur. Alors cette chanson, c'est I ragazzi del jukebox. Il faut bien penser que le jukebox entre dans la vie italienne quotidienne de l'époque. Les bars ont des jukebox. Et là, on peut écouter, dans un jukebox, plusieurs dizaines de chansons, si on veut. Et c'est un des grands faits nouveaux de la vie sociale, de la vie, de l'activité de distraction, que l'introduction de ces jukebox, qui sont souvent, qui est souvent illégal, parce qu'il y en a 4000 de déclarés, mais il y en a 15000 en réalité.
Ah ouais. Donc,
mais c'est une chose nouvelle. Et alors, il va écrire cette chanson, I ragazzi del jukebox, qui est aussi de 59. Et il dit, le bonheur coûte un jeton pour les garçons du jukebox. La jeunesse, il l'achète pour 50 lire et rien de plus. Il suffit d'un doux blues et d'une chanson pour les garçons du jukebox, en dansant ici, en dansant par-ci, en dansant par-là, chacun trouve sa grand, son grand bonheur. Allez, allez, tourne avec moi, allez, allez, serre-moi contre toi, avec ardeur, avec fureur, embrasse-moi, 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 le bonheur coûte un jeton, etc., etc. Il répète à peu près les mêmes paroles jusqu'à la fin. Alors c'est à la fois, il ne dit rien, mais ce qui est important, c'est de chanter le jukebox, que tous les jeunes aiment beaucoup et pratiquent beaucoup. Voilà. Effectivement, le bonheur pour 50 lire, c'est pas cher. On l'écoute. Il est déjà si connu et apprécié, par, en particulier par les jeunes, que Fellini va lui demander de jouer dans un de ses films, un de ses grands films de l'époque, la Dolce Vita.
Dolce Vita.
Et il chante une de ses chansons dans une scène de la Dolce Vita, qui est, où on danse le, il montre ces mondains de la Dolce Vita qui dansent, qui ont adopté le rock. Et il va publier en 1960 son second disque qui s'appelle Furore, Fureur, c'est bien significatif aussi. Et puis en 61, il va au festival de San Remo avec un de ses vieux amis, Little Tony, et avec lui, il chante une chanson qui va faire exploser les ventes, c'est 24.000 baci, 24.000 baisers. Alors cette chanson, elle est célèbre, aime-moi, je t'aime, avec 24.000 baisers, aujourd'hui tu sauras pourquoi L'amour veut à chaque instant 1000 baisers, 1000 caresses à l'heure. Avec 24 000 baisers, les heures courent heureuses d'un jour splendide, parce que à chaque seconde, je t'embrasse. Une par seconde, ça fait plus de 24 000. Ça fait moins de 24 000, d'ailleurs. Hein, ça fait...
C'était une mitraillette.
Bon, c'est symbolique. Pas de mensonges merveilleux, des phrases d'amour passionnées, mais seulement, je te demande seulement, des baisers. Yeah, 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 avec 24 000 baisers, si frénétique est l'amour, dans ce jour de folie, chaque minute est tout à moi, etc. Alors, à la fois, c'est révolutionnaire, c'est 24 000 abbacci, mais ça passe bien à San Remo, parce qu'en réalité, ça ne met rien en cause. Ça frappe, parce que vous allez voir le rythme aussi, qui est... Et puis on peut la chanter, c'est une chanson...
Très accélérée.
Oui, c'est une chanson facile aussi.
Oui.
On pourrait la chanter nous-mêmes ici.
Oui. Ah. Et il est arrivé seconde au Festival de San Remo.
Et puis, non seulement elle arrive seconde à San Remo, mais elle va vendre des dizaines de milliers.
Un million et 200 000...
Plus d'un million, petit à petit.
Elle a peut-être fait plus que le premier prix de San Remo.
Mais le premier prix de San Remo, il est même pas... on ne se rappelle plus.
On ne se rappelle plus, parce que c'est...
Tandis que ses chansons, on se rappelle encore.
Et on la chante toujours, enfin elle est connue,
Oui.
Tous les Italiens connaissent ça, et beaucoup plus que les Italiens d'ailleurs.
Il faisait son service militaire à l'époque, il s'est arrangé pour aller à San Remo.
Oui, il a obtenu une permission spéciale pour aller à San Remo.
Et va pour gagner.
Alors on va l'écouter, 24 000 abbacci, et on est en 1961.
Niente bugie meravigliose, frasi d'amore appassionate, ma solo baci chiedo a te. Con 24.000 baci, così frenetico è l'amore, in questo giorno di follia, ogni minuto è tutto mio. Niente bugie meravigliose, frasi d'amore appassionate, ma solo baci chiedo a te. Yeah, yeah. Con 24.000 baci, fuori freneti per amore, in questo giorno di follia, ogni minuto è tutto mio. Con 24.000 baci, felici corrono le ore.
C'est vraiment une chanson très dansante, quoi.
Oui.
D'ailleurs, c'était pour ça qu'il était considéré comme le Elvis Presley de l'époque.
Tout à fait. Oui. Et puis, elle est tellement connue que vous étiez en train de la chanter en même temps que lui.
Oui.
Ici, parce que c'est facile, par ailleurs.
Voilà.
C'est facile musicalement, c'est facile comme texte. Et ça a évidemment un succès énorme.
Oui.
Ça n'est pas vrai, c'est pas une révolution, pas du tout. cette chanson va beaucoup moins loin que beaucoup de chansons de cantautori de l'époque dans la critique de... Il n'y a aucune critique de la sexualité, par exemple, de la sexualité dominante. Elle est la bambina, et qu'est-ce que c'est cette bambina ? C'est un objet qu'il faut ploter, embrasser, et c'est une bonne bambina si elle se laisse embrasser 24 000 fois.
Oui. Alors, c'est la jeune, oui, la jeunesse naissante, disons que il a stimulé tous les jeunes pour pouvoir.
Oui, en même temps qu'il n'a rien changé, quoi, sur le fond. Le rapport homme-femme à travers lui, si tu veux, ne change pas, quoi.
Oui.
C'est toujours pareil.
Toujours la prédominance, quoi.
C'est toujours la prédominance de l'homme. La femme, c'est celle qui se laisse embrasser quand on veut. C'est tout. C'est tout. Et c'est ce que dira d'ailleurs, il va bientôt se marier avec, non pas Milena Cantu,
non,
mais Claudia.
Elle a dit, elle a laissé ses propos et il a attrapé sa femme,
oui,
dans
Claudia
sa film,
Mori,
Claudia Mori,
et
l'a trouvée dans son film.
Qui est toujours sa femme aujourd'hui, mais en même temps, ils auront.
Il a eu des hauts, des bas.
Des périodes de séparation complètes parce que il est complètement machiste. Et donc, il ne change rien sur le fond. Mais il change les choses dans la forme et il crée
au
une
musical,
forme
au niveau musical.
Voilà,
aussi,
une
voilà.
forme de contestation de cette société qui est complètement décadente, coincée, dont il n'y a plus rien à tirer, quoi, et qui va crever d'elle-même bientôt. On va bientôt arriver dans les années 80 aux formes extrêmes de terrorisme. Et puis on arrive, donc il a formé à ce moment-là son groupe, le clan Celentano, dont il est le dictateur, pas seulement le directeur, il est le dictateur. C'est le clan, c'est à la fois une maison d'édition de disques et puis une communauté.
Et en même temps, il donnait la possibilité
oui,
aux autres de pouvoir
accéder. Et puis, on voit apparaître des noms importants comme Ricky Gianco, voilà, comme Beretta, Luciano Beretta, Miki Del Prete, et des groupes aussi. Mais c'est lui qui sera le patron, ce qui fait qu'il se brouillera par la suite. Les gens vont s'en aller petit à petit, comme Don Bacchi et Ricky Gianco.
Don Bacchi s'est disputé avec lui pour la question d'une chanson.
Et oui, parce qu'il ne le paye pas.
Non, il voulait. Bon. Et ces clans, il a été formé au même, disons, avec les mêmes empreintes qu'il avait données au clan Sinatra.
Parce que oui, un peu. Oui, oui.
Il est sorti avec les mêmes propos, les mêmes choses que le clan Sinatra.
Un peu. Et il s'est beaucoup inspiré de ce qu'étaient les chanteurs américains, ouais, de l'époque, qui commençaient à être connus aussi en Italie, dont, comme tu dis, Sinatra. Et puis, on arrive donc à d'autres chansons. Et à un tournant en 62 de Celentano, il se met à, comment dire, à prêcher pour la religion catholique. Et ses chansons vont être des prêches, y compris ses chansons d'amour, comme celle qu'on va écouter, Preghero, qui est de 62. Il dit « Je prierai pour toi, car tu as la nuit dans le cœur, et si tu le veux, tu croiras. » Je le sais parce que tu n'as pas la foi, mais si tu le veux, tu croiras. Tu ne dois pas haïr le soleil parce que tu ne peux pas le voir, mais il y a maintenant, mais il est là, il brille maintenant sur nous, du château du silence, il voit toi aussi, et déjà je sens que toi aussi tu le verras. Il sait que tu le verras. C'est seulement à travers mes yeux. Et le monde, sa lumière, il retrouvera le monde retrouvera sa lumière. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. C'est le premier signe que donne la foi dans le Seigneur, dans le Seigneur, dans le Seigneur. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, etc. Donc il va mêler son amour pour les femmes à l'amour du Seigneur. Et ça va être une permanence dans la pensée de Celentano. Et c'est pour ça aussi qu'on va lui pardonner toutes ses excentricités, parce que finalement c'est un bon démocrate chrétien à l'époque. Il conteste la société démocrate chrétienne, mais il appelle sa petite amie à prier ce Dieu auquel elle ne croit pas encore. Mais si elle l'aime bien, eh ben ça va la faire croire.
Oui.
Allez, on écoute Preghero. Oui.
Pregherò per te, che hai la notte nel cuore, e se tu lo vorrai, crederai. Io lo so, perché tu la fede non hai, ma se tu lo vorrai, crederai. Non devi odiare il sole, perché tu non puoi vederlo, ma c'è, ora splende su di noi, su di noi. Dal castello o del silenzio, e ti vede anche te, e già sento che anche tu lo vedrai. Egli sa che lo vedrai solo con gli occhi miei, ed il mondo la sua luce riavrà. Io t'amo, 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 oh, oh, oh. Questo è il primo segno che dà la tua fede nel Signore, nel Signore.
Voilà, alors il y a, bon, on ne va pas rentrer dans tous les épisodes, mais tu disais à propos de Preghero
que c'est une cover, elle a été traduite par Don Bacchi, et
elle est signée,
en italien,
elle est
signée Don Bacchi,
oui.
parce qu'elle est traduite, mais c'est la fameuse chanson...
Standard américain,
oui.
Stand By Me.
Stand By Me, oui.
Oui. De...
Ah bah...
Ben King.
Voilà, c'est ça.
Ben King. Et puis pendant ce temps, bon, il a des tas de... Il développe aussi une industrie discographique à travers le clan. Le clan est aussi une industrie... et donc il a des procès, entre autres avec une autre maison de disques avec laquelle il avait travaillé, la Jolie. Il a des quantités d'ennuis, finalement il gagnera son procès, mais la Jolie lui demandait plusieurs millions de dommages et intérêts parce qu'il était parti dans une autre maison. Et puis bon, il produit beaucoup, il a beaucoup de succès, il gagne non seulement de l'argent mais des festivals. Et on arrive en 66, il est déjà très haut sur le marché. Et il écrit une chanson qui va être célèbre aussi, c'est Il Ragazzo, oui. Di Via Gluck.
C'est là.
Alors c'est important parce que 65, ces années 60, c'est le moment où Milan se développe considérablement.
Ouais.
On construit des quartiers nouveaux, on détruit pour cela des maisons, de vieilles maisons, des maisons populaires. C'est le moment où on bouche les navigli, on les recouvre.
Ah, oui.
Et, alors maintenant, pour l'expo, on vient de les rouvrir, mais pour pouvoir les faire naviguer, c'est aussi une opération commerciale. On en fait des rues pour pouvoir circuler. Donc, il y a un bouleversement à ce moment-là, à cette époque de la ville de Milan. Et alors, ce bouleversement... Celentano va l'analyser par cette chanson qui a été très célèbre, Il Ragazzo di Via Gluck, c'est-à-dire la rue où il habitait quand il était enfant.
Où il est né.
Où il est né, d'ailleurs, c'est vrai. Et il pose le problème, il dit, mais il raconte l'histoire où là où il y avait de l'herbe, maintenant il y a une ville. Et cette maison, au milieu du vert, désormais, qu'est-ce qu'elle va devenir, ma maison? Qu'est-ce qu'elle va devenir là-dedans? Ce garçon de la Via Gluck, la rue Gluck, s'amusait à jouer avec moi, mais un jour il dit, je vais en ville, et il le disait en pleurant. Je lui demande, mon ami, tu n'es pas content? Tu vas finalement aller en ville. Là, tu trouveras les choses que tu n'as jamais eues ici. Tu pourras te laver à la maison sans aller dans la cour. Mon cher ami, dit-il, ici je suis né, dans cette rue. Maintenant, je laisse mon cœur. Comment fais-tu à ne pas comprendre que c'est un bonheur pour vous qui restez pieds nus à jouer dans les prés, tandis que là, au centre, je respire le béton, le ciment. Mais un jour viendra où je reviendrai encore ici et j'entendrai le train, mon ami, qui siffle comme ça. Ouah. Les années passent, mais 8 ans, c'est long. Et pourtant, ce garçon en a fait de la route, mais il ne se souvient pas, il n'oublie pas sa première maison. Maintenant, avec les sous, lui, il peut l'acheter. Il revient et il ne trouve pas les amis qu'il avait, rien que des maisons sur des maisons, du goudron et du béton, là où il y avait l'herbe, etc. Donc il dit, mais c'est bien beau de construire des maisons, et c'est le début de son discours écologique. Vous ne pouvez pas détruire la nature, vous ne pouvez pas supprimer les prés en construisant vos immeubles. Et c'est vrai qu'on va détruire à ce moment-là beaucoup de quartiers populaires qui avaient de l'herbe, qui avaient des arbres, qui avaient... C'est pour ça que pour l'expo, on a promis, mais on ne l'a pas fait, de planter 50 000 arbres. On revient à cette époque, on veut revenir avant cette époque. On va l'écouter, on est en 1966.
Questa è la storia di uno di noi, anche lui nato per caso in via Gluck, in una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava, là dove c'era l'erba ora c'è una città. E quella casa in mezzo al verde ormai, dove sarà? Questo ragazzo della via Gluck si divertiva a giocare con me, ma un giorno disse, vado in città, e lo diceva mentre piangeva. Io gli domando, amico, non sei contento? Vai finalmente a stare in città, la troverai le cose che non hai avuto qui. Potrai lavarti in casa senza andare giù nel cortile. caro amico, disse qui sono nato e in questa strada ora lascio il mio cuore. Ma come fai a non capire? È una fortuna per voi che restate a piedi nudi a giocare nei prati, mentre là in centro io respiro il cemento. Ma verrà un giorno che ritornerò ancora qui. E sentirò l'amico treno che fischia così. Passano gli anni, ma 8 son lunghi, però quel ragazzo ne ha fatta di strada, ma non si scorda la sua prima casa, ora coi soldi lui può comperarla, torna e non trova gli amici che aveva, solo case su case, catrame e cemento, da dove c'era l'erba. C'è una città, e quella casa in mezzo al verde ormai, dove sarà? Case e non lasciano l'erba, non lasciano l'erba, non lasciano l'erba, non lasciano l'erba, e no, andiamo avanti così, chissà come si farà.
La chanson va être célèbre aussi parce qu'il y aura la même année, presque tout de suite après, une réponse de Giorgio Gaber dans un disque qui va publier dans un disque qui s'appelle La liberté, c'est pas d'être sur un arbre. Et il dit, je vais vous raconter aussi l'histoire d'un garçon de la vie à Gluck. Mais lui, il habitait là et puis il devait se marier. Il devait se marier et on a détruit sa maison et maintenant il a plus de maison. Et alors il devait se marier, sa fiancée est partie, sa mère avait préparé le voile pour le mariage, le trousseau, et puis maintenant la maison est plus là, on l'a détruite pour construire la ville. Et donc il a perdu sa maison, son amoureuse l'a abandonné. L'amour c'est beau, mais ce n'est pas tout, et pour se marier il faut un toit. Et alors si on construit pas de ville, dit Gaber, on n'a pas de toit, on peut pas se marier, et la fiancée, ben, elle fiche le camp. On va l'écouter pour terminer.
Questa è la storia di un ragazzo che abitava in una strada di periferia, e in fondo un po' assomiglia al ragazzo di via Gluck, anche se i suoi problemi sono un po' diversi. Era un ragazzo un po' come tanti, che lavorava, tirava avanti ed aspettava senza pretese il suo stipendio a fine mese. La madre a carico in due locali, mobili usati, presi a cambiare, in un palazzo un po' malandato, servizi in corte, tutto bloccato. Ma quella casa ora non c'è più. Ma quella casa l'han buttata giù. Morta la madre, rimasto solo, pensa alle nozze e all'amorosa, che già prepara il velo da sposa ed il corredo per la sua casa. per quella casa, vitto bloccato, 3.000 al mese, spese comprese. Lui la guardava tutto contento ed aspirava l'odor di cemento. Ma quella casa ora non c'è più. Ma quella casa l'ha buttata giù. Già tutto è pronto, le pubblicazioni, il rito in chiesa e i testimoni. Quando ecco arriva un tipo astratto, con baffi e barba e a viso distratto. E quel palazzo un po' malandato va demolito per farci un prato. Il nostro amico la casa perde per una legge del piano verde. Ma quella casa ora non c'è più. Ma quella casa l'ha buttata giù. Persa la casa, tutto bloccato, la sua amorosa l'ho abbandonato. L'amore è bello, ma non è tutto, e per sposarsi occorre un tetto. Ora quel prato è frequentato da qualche cane e qualche coppietta. E lui ripensa con gran rimpianto a quella casa che amava tanto. Ma quella casa ora non c'è più. Ma quella casa l'ha buttata giù.
È ora di finirla di buttare giù le case per fare i prati. Cosa ci interessano a noi i prati? Guarda quello lì, doveva sposarsi, gli ha buttato giù la casa, non può più sposarsi. Roba da matti. Io non capisco perché non buttano giù i palazzoni del centro, quelli lì sì che disturbano, mica le case in periferia. Ma, soliti problemi, qui non si capisce mai niente.
Voilà, des maisons ou des prés? Si on fiche en l'air les maisons pour avoir des prés, c'était la proposition des écologistes, eh ben, on n'a plus de maisons parce que c'était ces maisons de périphérie qui étaient pas chères, qui avaient une location bloquée.
3000 lire.
Oui. Et Gaber dit, mais alors pourquoi on démolit pas les maisons du centre pour faire des prés? Les maisons du centre, ça éviterait, comme il dit, aux gens qui habitent les maisons de périphérie, les seuls qui puissent habiter, ça leur éviterait d'avoir des problèmes de ce genre, d'être abandonnés par la fiancée, etc. Donc vous voyez, il y a un débat là qui est en même temps très, très actuel à l'époque, puis qu'il est encore. Est-ce qu'il faut développer à fond les villes? Est-ce qu'il faut, ou est-ce qu'il faut développer l'écologie? Est-ce qu'il faut loger les gens? Ou est-ce qu'il faut construire des prés, et où ne vient que quelques chiens et quelques coppietta. Voilà, on continuera sur Celentano le mois prochain. Vous pouvez l'écouter, j'en ai dit du mal, mais c'est un chanteur intéressant.
Oui, quand même.
Et important.
Oui.
Bien sûr.
Allez, au revoir à tous.
Au revoir à tous.
Au revoir.
Sono solo canzonette, ce ne sont que des chansonnettes.
Une émission de l'INIS sur l'histoire de la chanson italienne, présentée par
Jean Guichard,
Françoise Gibaja,
Angelo Sollima.